avancé ce soir dans notre étude du XVIIe siècle. Le moment est venu de faire une appréciation de ce siècle dont on a dit qu'il fut chrétien mais janséniste. Il est bien évident que si on regarde le christianisme de cette époque, tant catholique que protestant, on est obligé de reconnaître que c'est une époque brillante sur le plan de la piété, pourrait-on dire. Il y a, d'un côté comme d'autre, de nombreux chrétiens de valeur. Il y a aussi, pourrait-on dire, un profond enthousiasme religieux, qui n'est pas d'ailleurs sans avoir aussi son côté négatif, car cet enthousiasme religieux provoque aussi un fanatisme religieux. Et c'est avec raison que l'on peut effectivement parler de siècle chrétien. Le protestantisme s'affermit, c'est absolument indiscutable. Jeune protestantisme qui a un siècle à cette époque-là, il s'affermit dans ce sens que il est évident maintenant qu'il est là pour durer et que il n'est pas un de ces mouvements comme il y en a eu, par exemple, catharisme ou autre, n'est-ce pas, que le catholicisme va pouvoir réduire. Mais le protestantisme de cette période est miné déjà par un certain nombre de tares intérieures, n'est-ce pas, qui vont avoir des effets négatifs, notamment au siècle suivant. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui existe. La mondanité, notamment dans les grandes villes. Et puis, surtout, le rationalisme. Le rationalisme qui va s'épanouir, notamment au siècle suivant, au XVIIIe siècle. Et finalement, ce qui était le cheval de bataille du protestantisme au siècle précédent, le salut par la foi, eh bien la foi n'est plus cet élément dynamique qui amène une relation nouvelle de tout l'être à Dieu. Mais, comme nous l'avons vu bien souvent dans le protestantisme du XVIIe siècle, la foi, c'est le fait de bien penser. C'est finalement l'adhésion à un credo. Et cette vision de la foi, cette dégénérescence de la foi, aboutit aussi à un déclin de ferveur, notamment chez les luthériens. L'Église luthérienne est la plus touchée par ce mouvement, et on peut dire que nous avons affaire à ce que l'on pourrait appeler, au XVIIe siècle, l'âge de l'orthodoxie. Il y a une systématisation de la foi, des articles de foi. En fin de compte, être protestant, c'est avoir un credo qui est parfaitement orthodoxe. Il y a donc une systématisation, n'est-ce pas, des articles de foi. Et la Bible en vient à être réduite à un corps de doctrine, mais ce corps de doctrine remplace la vie véritable. Alors, bien sûr, il est certain que l'Église protestante en particulier, les Églises protestantes, à cause de cette évolution qui se fait jour, notamment à la fin du siècle, va être fort mal préparée pour les assauts d'un autre ordre du XVIIIe siècle. Et ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Devant cet état de fait, notamment dans l'Église luthérienne, il va y avoir une réaction. La réaction va porter un nom, le piétisme. Le piétisme allemand qui naît dans la dernière partie du siècle en particulier et qui sera, dans l'Église luthérienne allemande, un véritable mouvement de réveil. Bon, ce mouvement de réveil n'apparaît pas, bien sûr, par génération spontanée. Et ce mouvement quelque peu mystique, n'est-ce pas ? Car le piétisme est d'une certaine manière une forme de mysticisme, n'est-ce pas ? Eh bien, s'inscrit dans tout le courant du mysticisme du XVIIe siècle, par exemple du quiétisme, de un peu jusqu'à un certain point du jansénisme, n'est-ce pas, qui est une réaction aussi d'un retour à la piété au sein de l'Église catholique, n'est-ce pas. On trouve aussi quelque chose d'un peu semblable du côté des anabaptistes, du côté des Arméniens, n'est-ce pas, lorsque, en particulier, nous avons vu ça la dernière fois, un certain Arminius avait été choisi par le synode hollandais, n'est-ce pas, pour défendre les thèses calvinistes. Et finalement, en étudiant les thèses calvinistes, il se rend compte que le calvinisme est en fin de compte indéfendable, car à ce moment-là, dit Arminius, affirmer une prédestination absolue, eh bien, c'est faire de Dieu l'auteur du péché. Car si rien n'arrive, que Dieu ne l'ait prédéterminé d'avance, eh bien, si je pêche, en fin de compte, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si je pêche parce que Dieu l'a voulu, si je suis programmé pour pécher, en fin de compte, parce que ça vient ça, si, ça revient à ça, si on employait un langage moderne de l'informatique, n'est-ce pas ? Si je suis programmé pour pécher, alors où est ma responsabilité ? Finalement, c'est Dieu qui est l'auteur du péché. Et Arminius déclare que le calvinisme est, en fin de compte, blasphématoire. C'est exact. Deuxième critique que fait Arminius par rapport à la doctrine calviniste, c'est que le calvinisme laisse sans aucune espérance la majorité des hommes. Car si seulement un petit nombre d'élus est sauvé, alors, si je n'ai pas l'assurance que je suis du nombre des élus, alors pauvre de moi. Et si je ne peux rien faire pour changer mon sort, si j'étais éternellement choisi par Dieu pour être réprouvé, terrible situation. J'ai beau faire tout ce que je veux, n'est-ce pas ? Je ne serai jamais sauvé. Alors autant que je vive comme un patachon, pendant que les quelques années que j'ai sur la terre, et puis, ma foi, comme de toute façon, ça ne change rien à rien. Hein. Voyez-vous, c'est démobilisateur, et c'est totalement décourageant, dit Arminius. Alors Arminius va mettre au point, n'est-ce pas, une autre forme de protestantisme, pourrait-on dire, ça, qui va d'ailleurs porter le nom d'arminianisme jusqu'à nos jours, qui est la doctrine professée par la majorité des églises évangéliques, en tout cas dans nos pays. J'étais très étonné d'apprendre qu'en Russie, la plupart des baptistes étaient calvinistes. Bon, ça c'est un peu exceptionnel, c'est pas ? Mais en général, les évangéliques sont arméniens. Et l'arménianisme insiste sur deux choses. Premièrement, sur l'universalité du salut. C'est-à-dire que contrairement à la doctrine calviniste, Jésus n'est pas mort seulement pour les élus, mais il est mort pour tous les hommes. Ce qui veut dire que chaque homme peut devenir un élu à partir du moment où il reçoit personnellement le salut qui est en Jésus-Christ. Et par conséquent, le deuxième principe de l'arminianisme, c'est l'insistance sur le libre arbitre, c'est-à-dire sur la liberté de choix face à ce salut universel qui est offert à tout homme. Chaque homme possède la liberté de choisir ou de refuser ce salut par grâce qui lui est offert. Bien sûr, là on est dans un débat sans fin, si vous voulez, parce que on pourrait dire, mais est-ce que la volonté de l'homme, et c'est ce que disent les calvinistes, ils font deux objections à cela, n'est-ce pas ? Est-ce que la volonté de l'homme n'est pas elle aussi atteinte par la chute ? Et est-ce que l'homme a, si j'ose dire, le pouvoir de vouloir être sauvé ? Et est-ce qu'on ne peut pas dire que lorsque un homme choisit de se tourner vers le Seigneur, c'est parce qu'il y a eu une action de la grâce dans sa vie, dans son cœur, qui le pousse à cela ? Ça défend aussi. C'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire, dira l'apôtre Paul. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Deuxième objection des calvinistes consiste à dire, mais est-ce que, en insistant sur la foi, est-ce que la foi ne devient pas une œuvre méritoire, en fin de compte, qui permet l'obtention du salut ? Est-ce que ce faisant, on ne retombe pas, justement, dans la doctrine du salut par les œuvres. Bon, la deuxième objection me semble tout à fait sans fondement, n'est-ce pas ? Dire que la foi est une œuvre méritoire, bon, je crois que c'est tout à fait à côté. Et de toute façon, il y a de nombreux textes bibliques qui montrent que la foi est nécessaire au salut et que par conséquent, cela dépend aussi de l'action de l'homme. Maintenant, je crois que la première objection est plus sérieuse, n'est-ce pas, sur la capacité de l'homme d'avoir la volonté de se tourner vers le Seigneur. Bon, je crois qu'il y a les deux choses. Je dirais que là, n'est-ce pas, le but du Seigneur est de sauver tous les hommes. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit très clairement. C'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes, n'est-ce pas ? Et bien sûr, c'est vrai, l'homme, dans la chute, n'est-ce pas, dans son péché, ne se tourne pas spontanément vers Dieu. Il faut qu'il y ait une action de la grâce de Dieu qui s'opère en lui, comme le montrent les textes que je citais tout à l'heure. Mais, n'est-ce pas, cette grâce de Dieu qui attire l'homme, et qui attire l'homme, n'est-ce pas, non pas parce que Dieu a déterminé que cette grâce s'exercerait sur l'un et pas sur l'autre, mais tout simplement parce que tel ou tel, n'est-ce pas, est dans des circonstances où la grâce de Dieu peut opérer en lui. Ce qui n'a rien à voir avec une prédestination de Dieu, n'est-ce pas ? Mais par exemple, quelqu'un qui se trouve soudain confronté à une situation où soudain son cœur va se tourner vers Dieu, n'est-ce pas ? Et comme ça arrive dans la vie de chacun, finalement, n'est-ce pas ? Et puis, soudain, il y a une disponibilité qui fait que la grâce de Dieu peut intervenir dans son cœur. Donc, si vous voulez, comme l'a formulé Montré Finet, n'est-ce pas ? C'est toujours cette collaboration entre la grâce de Dieu et puis la volonté de l'homme. La grâce de Dieu est première, mais l'homme refuse ou l'homme rejette, comme l'avait fort bien vu Arminius, n'est-ce pas, cette grâce de Dieu. Et il est fort possible de résister à la grâce, il est fort possible de résister à l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, quoi qu'en disent les calvinistes, pour lesquels la grâce est irrésistible, mais la Bible nous enseigne tout le contraire, et l'expérience aussi nous montre qu'un certain nombre de gens, n'est-ce pas, ont rejeté la grâce de Dieu, ont refusé la grâce de Dieu, qui pourtant les appelait ainsi au salut. Donc, dans la mouvance de tous ces différents mouvements, naît le piétisme en Allemagne, nous disions, dans la dernière partie du siècle. Donc, c'est une sorte de mysticisme et plus exactement une réaction contre l'orthodoxie morte. Le piétisme, comme la plupart des mouvements de réveil, comme d'ailleurs les mouvements du même ordre dans l'Église catholique, n'est-ce pas, n'entend pas se séparer de l'Église officielle. Et dans le cas qui nous intéresse, n'entend pas se séparer de l'Église luthérienne. Mais, comme tous les mouvements du même ordre, le piétisme cherche à purifier l'Église de l'intérieur. La visée du piétisme n'est pas de promouvoir une réforme doctrinale. Le piétisme est véritablement luthérien et pour lui, il est totalement satisfait de la doctrine luthérienne. Il n'y a strictement, n'est-ce pas, aucune visée de ce type-là, mais son but est essentiellement pratique, comme le dit d'ailleurs le nom qu'on va lui donner, le piétisme, c'est de promouvoir un réveil de la piété. Le principal promoteur de ce mouvement se nomme Philip Jacob Spencer, ses dates 1635-1705, n'est-ce pas, qui était un pasteur luthérien. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui fonde véritablement le piétisme allemand. Il naît en Alsace, qui à cette époque-là fait partie de l'Allemagne. Et dès qu'il devient pasteur, sa prédication met l'accent essentiellement sur la sainteté et la séparation d'avec le monde. Et ce sont là les deux très essentiels qui vont marquer le piétisme allemand du XVIIe siècle. Spencer est particulièrement affligé justement par ce manque de sainteté et la mondanité qu'il constate dans l'Église luthérienne qui est autour de lui. Et c'est pourquoi en 1675, il écrit un livre dans lequel il dénonce l'état de décadence de l'Église luthérienne et il propose un certain nombre de remèdes pour sortir de cette situation-là. Et très vite, autour de Spencer se crée un certain nombre de réunions plus ou moins spontanées en dehors du culte dominical, qui était à peu près la seule manifestation de piété, n'est-ce pas, des luthériens allemands. Et il y a des sortes de réunions de prières qui se créent. C'est la première fois, si vous voulez, que dans l'Église, on voit se créer, à côté du culte dominical, des réunions de prière en semaine. C'est à Spencer que l'on doit cette innovation qui a été adoptée depuis dans toutes les églises évangéliques pratiquement, c'est pas, et qui est marquée par deux temps. Premièrement, une étude biblique. On se met à étudier la Bible. Ça, c'est aussi un des éléments forts du piétisme allemand. Et puis ensuite, on se met à prier. Spencer va créer ces sortes d'églises de maison dans lesquelles justement vont pouvoir constituer ces réunions d'études bibliques et de prières. Et il insiste énormément, trop d'ailleurs, sur le sacerdoce universel. Spencer aussi a fort bien compris qu'un des grands maux qui ravage le protestantisme est la controverse doctrinale. Et dans les réunions piétistes, n'est-ce pas, il y a une règle absolue sur laquelle Spencer insiste, c'est le refus total des controverses dans ce domaine-là. On n'est pas là pour étudier la doctrine, ça, il y a des théologiens pour ça, ça. On est là pour devenir plus saint. On est là pour être plus efficace dans la prière. On est là pour mieux connaître la Bible, mais non pas pour polémiquer autour de questions doctrinales. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que Spencer, obligatoirement, se désintéresse de ces questions doctrinales. Et bien que ce ne soit pas sa visée première, il est bien conscient que les pasteurs doivent être formés. Et Spencer va revendiquer une réforme des facultés de théologie. Les facultés de théologie devenues trop intellectualistes, trop philosophiques, trop cérébrales, et qui entraînent des conséquences graves dans le domaine de la prédication, qui n'a plus le caractère percutant qu'elle devrait avoir parce que, dit Spencer, les pasteurs sont mal formés. Et par conséquent, il faut réviser, il faut réformer la formation donnée aux pasteurs pour que ces pasteurs deviennent des hommes eux-mêmes plus saints et plus pieux, qui puissent faire passer le message divin à tous ceux, n'est-ce pas, qui vont venir en contact avec eux. Il faut dire que l'époque du piétisme, c'est aussi, ça coïncide à peu près, si vous voulez, avec la fin de la guerre de 30 ans. Qui a ravagé, nous l'avons vu, l'Allemagne, et qui a laissé le protestantisme allemand totalement épuisé. Spencer, dans ces années-là, va devenir pasteur à Francfort. Francfort, qui est aussi la plaque tournante du refuge, ce qu'on appelle le refuge, où de nombreux huguenots français vont venir s'installer, et les huguenots français qui vont s'installer à Francfort et en Allemagne, disons de manière générale, vont être touchés par le réveil piétiste. Spencer sera pasteur 35 ans dans cette ville de Francfort, et il va donc ainsi poursuivre son travail qu'il avait commencé à Strasbourg. Il avait commencé son ministère à Strasbourg. Et puis, ensuite, il finira sa vie à Dresde, pasteur à Dresde. En 1688, il va être rejoint par un autre pasteur qui se nomme Hermann Frank, avec CK à la fin, et qui sera son successeur, d'ailleurs. C'est un homme qui est né en 1663 et qui va le seconder alors d'une manière tout à fait positive. Franck va surtout s'intéresser à l'aspect social du piétisme, et notamment il va créer de nombreux orphelinats et œuvres du même ordre pour aider les plus défavorisés. Lui-même va s'établir à Berlin par la suite. Et il sera professeur dans l'université du même lieu. Le piétisme allemand va aussi insister dans sa lutte contre la mondanité sur un certain nombre de points, n'est-ce pas, sur lesquels nous le rejoindrions, n'est-ce pas, le refus de la danse, le théâtre, les jeux de cartes, les romans, les vêtements indécents, et puis aussi il met au banc, n'est-ce pas, l'alcool, la consommation d'alcool. Alors, ça, c'est quelque chose qui va marquer les réveils qui vont suivre, n'est-ce pas? Tous les réveils vont reprendre les bases du piétisme allemand dans ce domaine-là. Et puis, chose tout à fait intéressante pour cette période-là, les piétistes allemands, donc que ce soit Spencer ou que ce soit Frank, n'est-ce pas, Hermann Frank, ont une vision missionnaire. Alors que le protestantisme au XVIIe siècle n'avait absolument aucune vision missionnaire. Allons jusqu'à dire, n'est-ce pas, que l'ordre de Jésus d'aller prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde était valable pour les apôtres et que depuis la disparition des apôtres, les chrétiens modernes, en quelque sorte, en sont dispensés. Et dans ce domaine-là, les piétistes allemands tranchaient, n'est-ce pas, sur la vision générale qui était celle de l'Église protestante de leur temps. Et puis, dans ce même souci, n'est-ce pas, de mission, non seulement lointaine, mais je dirais à la porte, n'est-ce pas, Spencer va se rendre compte qu'il y a un grand besoin en ce qui concerne les enfants et les jeunes. Et si souvent, n'est-ce pas, les églises sont peuplées de gens qui sont tièdes, n'est-ce pas, pour le moins, c'est parce qu'ils ont été, en général, l'éducation religieuse, l'éducation spirituelle des enfants a été délaissée. Et Spencer va être le premier qui va fonder les écoles du dimanche. Là aussi, c'est un fruit du réveil du piétisme allemand que les écoles du dimanche. Néanmoins, malgré tout le bon côté qu'il y avait chez Spencer, il était un homme aussi et il a eu ses points faibles, et notamment la fin de sa vie était assez incohérente, et il est tombé dans des extravagances diverses, n'est-ce pas, bon, qu'il est inutile de rappeler ici, simplement pour dire que c'est dommage qu'il ait ainsi mal fini. Enfin, gardons le positif, n'est-ce pas, et laissons de côté ce négatif qui n'a pas été d'ailleurs très long puisqu'il est mort peu de temps après. Pendant ce temps-là, que se passait-il dans les églises d'Angleterre ? Quand je dis Angleterre, j'entends aussi Angleterre et Écosse, qui à cette période-là, nous l'avons vu, formaient deux royaumes distincts. C'est à la fin du règne d'Élisabeth que l'église anglicane adopte une structure épiscopale, c'est-à-dire une structure qui est proche de la structure catholique. Grand dame des puritains qui, au sein de l'Église d'Angleterre, luttaient pour la purifier de tout ce qui venait de Rome. Et pour eux, n'est-ce pas, le système épiscopal non biblique était une trahison. Et c'est précisément cette évolution, nous l'avons vu, qui amènera les puritains à se séparer de l'Église d'Angleterre, que naîtront les églises indépendantes ou les églises congrégationalistes, nous avons vu cela, d'où naîtront ensuite, nous l'avons vu aussi, les églises baptistes. Ensuite, nous avons vu l'arrivée de Cromwell, et en 1649, au moment où Cromwell arrive au pouvoir, on notait en Angleterre 80 dénominations religieuses. C'est presque incroyable, n'est-ce pas? 80 dénominations religieuses déjà au milieu du XVIIe siècle. Et une des premières mesures que veut prendre Cromwell quand il arrive au pouvoir, c'est justement d'abolir ce qu'il appelle les sectes. Seulement, cette évolution coïncide mal avec son désir de rétablir la liberté de conscience. Et finalement, en 1653, le Conseil d'État, sous son influence, affirme que nul n'est tenu d'adhérer à la religion nationale, c'est-à-dire à l'Église d'Angleterre, et que toutes les formes d'expression religieuse sont légitimes à partir du moment où elles sont authentiquement chrétiennes, sauf le papisme. Le papisme est la seule secte, entre guillemets, n'est-ce pas, qui est bannie de l'Angleterre de Cromwell. Maintenant, il faut dire que l'Église d'Angleterre est loin d'être un modèle de piété, et notamment les prêtres ou pasteurs, on les appelle tantôt l'un, tantôt l'autre, n'est-ce pas, sont souvent des gens ignorants, de mœurs douteuses, et là aussi Cromwell va réagir et faire en sorte que dans la mesure où l'Église d'Angleterre est une institution d'État par conséquent dans laquelle le pouvoir politique a son mot à dire, Eh bien, Cromwell, lui, ne fait pas de détails, et tous ceux qui ont des mœurs dissolues, eh bien, sont tout simplement déposés, destitués et remplacés par des gens qui sont plus valables. Donc ici, nous voyons cette évolution qui va coïncider aussi avec un autre élément positif de l'évolution de l'Église d'Angleterre, sous l'influence des puritains, on pourrait dire, n'est-ce pas? C'est la confession de Westminster. La confession de foi de Westminster. La confession de foi de Westminster est une des plus anciennes confessions de foi qui existe et qui fait suite, n'est-ce pas, à la confession de foi des Arméniens, justement, des évangéliques, qui date de 1586. La première confession de foi du monde, n'est-ce pas, est une confession de foi évangélique. Ce sont les évangéliques qui ont la première confession de foi, bien avant la confession de Westminster, n'est-ce pas? Mais la confession de Westminster, est une des confessions essentielles. Aujourd'hui encore, elle est constitutive de l'Église d'Angleterre, et on peut dire que sous l'influence des puritains, c'était une des confessions de foi extrêmement évangélique, et souvent d'ailleurs, vous avez remarqué, quand nous étudions la doctrine, nous nous référons à la confession de foi de Westminster. Parmi les grands hommes de Dieu de cette période-là en Angleterre, en France, il faut citer Labadie. Labadie est né à Bordeaux en 1610, dans le milieu catholique. Il a été éduqué par les jésuites dans le but de devenir prêtre. Dans le courant de ses études, il est amené à étudier le Nouveau Testament et il se rend compte que l'Église catholique est loin du modèle du Nouveau Testament auquel il faut revenir. Pour lui, ce qui est normatif, c'est l'Église de Jérusalem telle qu'elle apparaît dans le livre des Actes. En 1635, il est ordonné prêtre et il pense qu'il est appelé par Dieu pour réformer l'Église. Réformer donc l'Église comme il l'entend de l'intérieur. Bien entendu, il ne va pas tarder à déchanter et se rendre compte que là, il nage en pleine illusion. Il comprend que, notamment au sein des jésuites, il est véritablement dans un carcan, mais il ne peut le quitter. Finalement, il va profiter d'une maladie pour pouvoir quitter l'ordre des jésuites. Et de Bordeaux, il se rend à Paris, puis à Amiens, où il diffuse le Nouveau Testament. Il se rend compte que l'Évangile était finalement la seule règle de vie et le modèle unique des premiers chrétiens. Et il décide pour lui-même de prendre cette règle-là, de ne se référer qu'au Nouveau Testament. Il se rend vers son évêque et il reçoit de lui l'autorisation de créer une fraternité où des prêtres se rencontrent deux fois par semaine sur cette base du Nouveau Testament. Bien évidemment, ses anciens collègues jésuites vont réagir en face de cette évolution-là et Labadie va être persécuté, peut-on dire, par les jésuites. Devant cette levée de bouclier que crée sa prédication au sein de l'Église catholique, il entre en contact avec les calvinistes et en 1650, il passe au protestantisme à Montauban. Et c'est immédiatement pour se rendre compte que l'Église réformée a besoin d'une sérieuse réforme elle aussi. Et comme Labadie a vraiment l'âme d'un réformateur, il pense qu'il va tenter de réformer l'Église réformée. Bon, là aussi, il comprend très vite qu'il nage en pleine illusion et il est obligé de quitter Montauban où il se rend à Orange. Puis d'Orange, il s'enfuit à Londres sous l'influence des persécutions et à Londres, il va devenir le premier pasteur de l'Église française de Londres qui existe encore. L'Église de langue française, qui a été créée pour accueillir les Huguenots persécutés et qui aura un rôle très important à jouer pendant toute cette période-là, et notamment jusqu'à la Révolution française. En 1659, il se rend à Genève, où il va entreprendre une campagne de réveil, pourrait-on dire, pour essayer de lutter contre le relâchement de la foi qu'il a constaté dans la ville de Calvin. Et en 1661, deux ans plus tard, il se rend en Hollande pour entreprendre aussi une campagne de réveil. C'est l'époque où les Pays-Bas ont secoué le joug de l'Espagne grâce à Guillaume d'Orange et il entre en contact avec un certain Teylinck, je ne sais pas si on dit Teylinck ou Teylinck, T-E-L-I-N-K, qui avait réformé aussi, qui avait tenté, comme l'avait fait l'Abbadie, une réforme de l'Église réformée de Hollande. Et cette réforme, qui était inspirée pas mal d'ailleurs d'Arminius, qu'il avait commencé en 1679, se concentre autour de la création de ce que Teylinck appelle des conventicules, c'est-à-dire des sortes d'églises de maison, un petit peu comme Spencer avait fait en Allemagne. Et quand il arrive en Hollande, l'Abbadie se trouve mis en contact avec ces conventicules-là. Il se rend à Utrecht, où il est reçu par une dame noble de la ville qui se nomme Anna Maria van Schumann. Et là, il commence à prêcher que, en fin de compte, l'Église, en général, a misérablement failli à sa mission et qu'elle n'existe plus. Il n'y a plus d'Église, que nous sommes arrivés au temps de la fin et que la seule chose à faire maintenant, c'est d'attendre le retour du Seigneur. Voyez-vous ? Premier constat d'échec qui sera repris sous les doctrines qui sera reprise constamment dans les siècles suivants. Par exemple, on retrouve un peu cette doctrine chez Darby. D'ailleurs, c'est très intéressant de constater que c'est souvent ce constat d'échec de l'Église chrétienne qui amène une redécouverte de la doctrine du retour de Jésus. Ce sera exactement le même phénomène chez Darby et chez les frères de Plymouth, n'est-ce pas ? Et c'est la raison pour laquelle l'Abbadie refuse de signer la confession de foi wallonne, qui est une confession de foi calviniste. Pour ce faire, l'Abbadie écrit une réfutation du rationalisme qui commence à ravager l'Église de Hollande, et ce qui fait qu'en 1669, l'Abbadie est exclu de l'Église réformée de Hollande. Alors voyez-vous, exclu de chez les catholiques, exclu de chez les catholiques français, finalement exclu des réformés français, je veux dire, exclu ensuite de l'Église réformée. Il n'empêche qu'il a groupé autour de lui une Église de 300 membres, et qui se sépare donc de l'Église réformée de Hollande pour former une Église nouvelle. Cette Église, c'est très intéressant, va évoluer de telle sorte qu'en son sein va naître une communauté de vie. C'est un des fruits du réveil aussi que cette redécouverte de la vie communautaire. Et pour ce faire, il loue à Amsterdam un certain nombre de maisons où vont vivre en communauté une quarantaine de personnes. Voyez-vous, sur les 300 membres que comptait son église, il avait une communauté de 40 personnes. Cette communauté se rassemblait une fois par semaine pour un repas pris en commun. En même temps, à l'issue du repas, comme ça se faisait chez les premiers chrétiens, n'est-ce pas, on prenait la communion. En 1670, eh bien, la communauté évolue jusqu'à devenir une communauté de biens complète, où il met tout en commun. Souvenons-nous que le point de départ du cheminement de l'Abbadie avait justement été la redécouverte de l'Église de Jérusalem comme Église normative. Et donc, l'Abbadie va poursuivre constamment et avec une grande cohérence son idée force première. Et à la fin de sa vie, eh bien, il mettra en pratique les théories qu'il avait découvertes dans le Nouveau Testament. Et le réveil va continuer à se propager dans cette ville d'Amsterdam, et notamment un certain nombre de membres de la communauté de l'Abbadie sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et là, il y a des parlers en langue qui sont évoqués dans les chroniques de l'époque, et même il y a une fameuse soirée qui est évoquée, n'est-ce pas, où un certain nombre des membres de la communauté, pendant une heure d'horloge, ont dansé dans l'esprit. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec les danses qu'on nous présente aujourd'hui comme spirituelles dans l'Église et contre lesquelles les piétistes d'ailleurs s'étaient élevés, nous l'avons vu, mais il s'agissait vraisemblablement là de quelque chose d'exceptionnel, bien entendu, dont on ne peut absolument pas faire une norme, comme Yvon Charles avait vu une fois dans une réunion de l'Église apostolique dans le Pays de Galles, n'est-ce pas, où il y avait un vieux monsieur qui s'était mis à danser calmement dans un coin, n'est-ce pas? Bon, un phénomène certainement du même ordre s'était produit dans ce réveil-là. Quatre ans plus tard, donc en 1674, l'abbadie meurt et la communauté persécutée va émigrer à New York, suivant ainsi l'exemple de bien des puritains anglais d'une part, et puis de baptistes et d'arméniens hollandais, aussi persécutés par l'Église réformée hollandaise. Et puis, une autre partie de la communauté se rendra au Suriname, qui est une colonie hollandaise de l'époque. Et là-bas, au Suriname, il n'en restera rien. La communauté va s'effondrer et va complètement disparaître. Donc, si vous voulez, dans ce contexte général d'une Église protestante qui s'attédit, pour le moins, il y a, ça et là, en Allemagne, en Angleterre et en Hollande, un certain nombre de mouvements, pourrait-on dire, de réveils. Réveils qui sont des réveils limités, qui ne remettent pas en question fondamentalement l'évolution générale de l'Église, mais qui sont les réactions de l'Esprit de Dieu, pourrait-on dire, à une évolution qui est une évolution quand même négative sur le plan de la piété. Maintenant, si vous voulez, avant d'en terminer avec le XVIIe siècle, nous allons voir un autre élément très important de l'histoire de l'Église à cette période-là, l'histoire des missions. La mission au XVIIe siècle, elle est essentiellement catholique. En 1622, le pape Grégoire XV constitue une congrégation de 13 cardinaux pour la propagation de la foi, congrégation qui existe encore aujourd'hui dans l'Église catholique. Cette commission est présidée, donc, nous l'avons dit, par 13 cardinaux, et elle envoie des missionnaires dans les pays que l'on découvre à cette période-là. Nous sommes à la période des grandes découvertes, n'est-ce pas ? Encore, bien que c'était au siècle précédent essentiellement que les choses ont eu lieu, mais quand même. Et en particulier, un des grands noms des missionnaires catholiques de cette période-là, c'est Francesco I Galli, qui est un Italien, et qui a compris un des principes essentiels, n'est-ce pas, de la mission. Il a compris que si on voulait implanter en terre païenne des églises durables, il fallait que ces églises soient dirigées par un clergé indigène. Et le but de I Galli, ce sera de créer des clergés indigènes partout où des églises seront implantées. Deuxième principe qui sera le sien, sera le grand théoricien de la mission de cette période-là, n'est-ce pas, c'est que aussi longtemps que les coutumes des indigènes ne sont pas contraires à la foi, il faut les conserver. Il ne faut pas essayer de changer les coutumes des indigènes quand elles sont neutres. Et c'est ainsi qu'en 1663, l'Église catholique française crée la Société des missions étrangères de Paris. En sorte que la France va devenir le grand centre de la mission catholique au XVIIe siècle, succédant ainsi à l'Espagne et au Portugal, qui sont des pays, nous l'avons vu, en plein déclin. La mission de Paris va appliquer les principes d'I Galli, c'est-à-dire chercher à créer des clergés locaux. Et c'est elle qui va entreprendre l'évangélisation de l'Inde par des missionnaires qui vont s'efforcer, autant que faire se peut, de respecter les coutumes locales qui, en Inde, évidemment, sont très fortes. En 1609, déjà, les premiers convertis sont baptisés. 63 convertis sont baptisés, parmi eux quelques anciens brahmanes, qui sont donc les prêtres hindouistes. Maintenant, évidemment, on peut se poser la question de savoir s'ils sont véritablement convertis, car le principe, n'est-ce pas, de les laisser pratiquer leurs coutumes locales est bien beau, mais il est parfois difficile de faire la différence entre ce qui est neutre et finalement ce qui est contraire à la foi chrétienne. Et en fin de compte, on se rend assez vite à l'évidence, à savoir que ces 63 convertis sont restés en fin de compte hindouistes, dans la mesure où l'hindouisme est une religion tolérante et syncrétiste qui absorbe, qui, n'est-ce pas, intègre dans son système général des nouveautés. Et par conséquent, le christianisme est apparu à ces gens-là comme une nouveauté, si vous voulez, qu'il faut intégrer dans l'hindouisme. Mais rien fondamentalement n'a été changé. Par conséquent, il faut se rendre à l'évidence, c'est un échec. On reprend donc le travail, et en 1643, après avoir constaté que nous avions affaire à un schisme parmi ces 63 premiers-là, en 1643, on aura quand même en Inde plus de 600 baptisés. C'est quand même pas négligeable. De l'Inde, on vise la Chine, et la Chine donc va être évangélisée dans ces années-là. Il y aura bientôt un travail bien établi à Pékin. Mais hélas, en 1644, des troubles politiques viennent changer la situation à Pékin, en sorte que les convertis sont persécutés. Le premier évêque chinois est nommé en 1647, mais on lui donne un nom européen. C'est quand même assez extraordinaire, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas accepter qu'il garde son nom chinois, et c'est ainsi qu'il se voit affublé du nom ronflant de Ivan Grégoire Lopez. Allez comprendre pourquoi, on n'en sait rien. Voilà un Chinois, n'est-ce pas, qui reçoit ce nom de baptême. Alors, bien entendu, le problème, c'est qu'il faut qu'il dise la messe en latin en plus de ça. La messe en latin au milieu des Chinois. Vous voyez ça? Alors, le malheureux, il proteste. Et puis, les missionnaires qui sont venus aussi en Chine protestent. Et finalement, à titre tout à fait exceptionnel, le dénommé Lopez reçoit l'autorisation de dire la messe en chinois, mais en chinois seulement. Il n'a pas le droit d'employer une autre langue vernaculaire. Et finalement, il est obligé au bout d'un temps d'adopter le latin. Alors évidemment, respecter les coutumes locales, là aussi il faut savoir mesure garder. On était prêt à accepter que les brahmanes continuent à avoir leur rite hindouiste, mais on n'acceptera pas qu'un Chinois puisse prier Dieu en une autre langue que le latin. Vous voyez l'incongruité d'une pareille décision. Bien entendu, cette décision crée de graves dissensions parmi les missionnaires. Certains s'opposent véhémentement à ce genre de choses. Et en même temps, n'est-ce pas, il y a un autre problème qui naît parmi les Chinois. Le même problème, en fin de compte, qu'avec les Indiens, à savoir que les convertis chinois veulent conserver un élément essentiel des coutumes de leur pays, c'est-à-dire le culte des ancêtres qui est très fort chez les Chinois. Alors, est-ce qu'on va accepter ou non que les Chinois continuent à pratiquer le culte des ancêtres? Rome répond bien évidemment non. Les missionnaires disent, eh bien, si on les coupe du culte des ancêtres, on n'a plus qu'à faire nos valises et on n'a plus qu'à partir. Et eux, finalement, seraient pour l'acceptation du culte des ancêtres. Les dissensions sont telles que, eh bien, c'est une sorte, la progression du catholicisme en Chine est freinée, voire stoppée, justement, par ces dissensions-là. De Chine, on passe au Japon, sous l'impulsion d'un missionnaire qui se nomme Alexandre Rode, qui est originaire d'Avignon, où il est né en 1591. Et cet homme se rend donc au Japon en 1678. Et sur sa route vers le Japon, il s'arrête au Vietnam. Et après, il va apprendre le vietnamien et va se mettre à évangéliser le Vietnam, d'où il sera d'ailleurs expulsé en 1675. Et puis, il y revient 2 ans plus tard pour tenter une nouvelle évangélisation. Il est à nouveau expulsé. Il revient 3 ans plus tard. Et là, son travail porte ses fruits parce qu'il aura la possibilité de baptiser 6700 convertis. À cette époque-là, ça marchait. Il va être 5 ans à Hue, donc au Vietnam, pour être en fin de compte banni. Mais il va créer des communautés de catéchistes mariés. Et quand il sera expulsé, ces catéchistes vont poursuivre son travail. En sorte que, à la fin du siècle, il y aura au Vietnam 300 000 chrétiens baptisés. D'ailleurs, souvent sur leur lit de mort, beaucoup d'entre eux. Mais enfin, une implantation quand même de 300 000 catholiques. Rode a écrit le vietnamien avec des caractères latins, et il peut avoir ainsi, les convertis là-bas peuvent avoir des documents écrits. Maintenant, évidemment, cette église du Vietnam, qui est une des plus anciennes d'Extrême-Orient, va connaître malgré tout de très nombreuses persécutions à cette période-là. Et puis, Rome a aussi en vue l'Afrique. L'Afrique qui commence par être colonisée par les puissances occidentales à cette période-là. Et dès 1645, on compte 600 000 baptisés en Afrique, notamment au Congo, en Angola, où on assiste à une progression d'une moyenne de 12 000 baptisés par an. Seulement, évidemment, ce sont des gens qui sont souvent très ignorants, qui ont souvent une foi extrêmement superstitieuse. En 1612, le Portugal étend son autorité sur le Mozambique et il impose, si j'ose dire, à tous les habitants du Mozambique le baptême. Bien entendu, ça ne veut pas dire grand-chose. Un baptême imposé comme ça de l'extérieur par le pouvoir politique nouveau, ça ne représente que des conversions nominales et il faut absolument ne pas tenir compte de cette population de ce pays d'Afrique dans le décompte justement des véritables convertis. En 1642, la Compagnie des Indes débarque à Madagascar un certain nombre de pères lazaristes. Mais hélas, 75 d'entre eux seront massacrés dans leur première tentative d'évangéliser l'île de Madagascar. Beaucoup plus au nord, dans le Nouveau Monde, les Français vont s'intéresser à l'évangélisation du Canada. En 1615, Champlain fonde la ville de Montréal, qui se trouve au confluent du territoire de trois tribus indiennes, les Hurons, les Algonquins et les Iroquois. En 1622, 50 pères jésuites arrivent au Canada pour évangéliser ces Ils sont rejoints quelque temps plus tard par une religieuse française qui se nomme Marie de l'Incarnation, qui est une religieuse ursuline originaire de Tours et qui, dans son couvent, là-bas à Tours, a eu une vision lui demandant de se rendre au Canada pour y évangéliser les indigènes. Elle résiste. Et en 1635, elle a une deuxième vision qui lui fait la même demande, en sorte qu'en 1639, avec trois autres sœurs, elle crée un couvent dans la nouvelle ville de Montréal qui a été créée quelques années plus tôt. Certains jésuites seront massacrés par les Indiens qu'ils tentent d'évangéliser et la réaction, n'est-ce pas, des pouvoirs sera extrêmement brutale parce que pour le meurtre de ces pères jésuites, on va tout simplement exterminer et massacrer les tribus indiennes que l'on entendait ainsi évangéliser. C'est une drôle de manière, bien entendu, de les évangéliser. Remarquez qu'on a à peu près le même phénomène en Amérique du Sud où les jésuites du Paraguay ont établi une république. La république du Paraguay est tout simplement une république jésuite où on regroupe de force les populations dans des villages dans le but de les évangéliser. Bon, les colons s'opposent à cette politique-là, mais finalement, comme les jésuites contrôlent tout, eh bien, ils mènent à bien leur projet et au bout d'un siècle, les premiers prêtres locaux, les premiers prêtres indiens, pourront être ordonnés donc parmi les indigènes de l'Uruguay, du Paraguay. À la fin du XVIIIe siècle, les jésuites seront expulsés de ce pays, mais l'œuvre sera détruite avec eux. La deuxième moitié du siècle voit l'expulsion des puissances protestantes de ces régions-là, et aussi l'effondrement de l'influence de l'Espagne et du Portugal. Et finalement, les révoltes entre les troubles entre protestants et catholiques vont se trouver ainsi exportés outre-mer. Dans les pays de mission, nous allons avoir le conflit entre catholiques et protestants qui va intervenir, évidemment. Ce ne sera pas un témoignage formidable pour le protestantisme, pour le christianisme en général. Toutes les méthodes missionnaires ont en fin de compte été essayés dans ces pays-là, avec un succès plus que mitigé, mais qui, on peut dire, en fin de compte, aboutit à un échec. L'Église catholique, à cette période-là, n'est pas dans une position qui lui permet d'avoir un impact sur ces populations-là, parce qu'elle est quand même divisée par ses querelles internes, nous l'avons vu, en particulier par le jansénisme. D'autre part, le nombre des missionnaires est trop petit, trop peu élevé. Les divisions s'étalent au grand jour, provoquant des désordres. Et puis, enfin, il y a une trop grande influence de la culture occidentale, notamment en ce qui concerne le latin, nous l'avons vu. Il n'y a ensuite pas de Bible à la disposition des populations indigènes, et ça c'est aussi une grave lacune, en sorte que beaucoup de ce qui aura été créé au point de vue missionnaire pendant ce siècle sera en fin de compte perdu. Mais il en restera malgré tout un petit quelque chose qui permettra de nouveaux développements au XIXe siècle en particulier. Et finalement ce qui aura été créé au XVIIe siècle sera une tête de pont et qui permettra un renouveau des missions catholiques au XIXe siècle. Maintenant, en ce qui concerne les églises orientales, c'est-à-dire les églises orthodoxes en particulier, eh bien, elles sont paralysées par l'avancée de l'islam et des Tartares en Russie en particulier. Venant des steppes de l'Asie centrale, ces populations qui sont islamisées menacent la foi orthodoxe. En 1619, ces tribus musulmanes franchissent le Yénisseï et pénètrent donc à l'intérieur de la Russie elle-même. En 1632, la Léna est atteinte et en 1648, ils atteignent l'Oural, n'est-ce pas ? Et en même temps d'ailleurs que de l'autre côté, ils atteignent le Pacifique. Donc on peut dire que le monde orthodoxe est dans une période de déclin, est dans une période défensive à ce moment-là. Quant au monde protestant, il ne pense pas du tout à la mission. Il ne commencera à y penser qu'après le traité de Westphalie, au milieu du siècle. Entre-temps, les protestants s'épuisent en controverse, ce qui est déjà une maladie protestante dès le départ, n'est-ce pas, qu'on voit déjà se manifester là, arminiens contre calvinistes, puritains contre Église d'Angleterre, enfin bref, tout ce qu'on a vu là. C'est encore l'époque où la plupart des routes du commerce international, tant terrestre que maritime, sont contrôlées par l'Espagne et le Portugal. Et ce n'est que dans la deuxième moitié du siècle que les deux puissances maritimes vont remplacer ces deux puissances qui déclinent, Espagne et Portugal déclinent, et sont remplacées par les deux puissances protestantes que sont la Hollande et l'Angleterre, qui deviennent d'importantes puissances maritimes. Maintenant, il faut dire aussi que les réformateurs n'ont pas eu de vision missionnaire. Et c'est pourquoi, contrairement à ce qui s'était passé pour l'Espagne et le Portugal, quand elles avaient le contrôle de ces routes maritimes, eh bien, il n'y aura pas, à cette période-là, de mission parmi les, si vous voulez, les bateaux anglais et hollandais qui vont traverser l'Atlantique en particulier. Comme je disais tout à l'heure, on va même jusqu'à prétendre que l'ordre de Jésus de prêcher l'Évangile n'était valable que pour les apôtres. Il y aura quelques exceptions dans cet ensemble-là. Par exemple, en 1559, le roi de Suède, Gustave Adolphe, demande que soient évangélisés les Lapons. C'est le début de l'évangélisation des Lapons. On a aussi un certain Hugo Grotius, qui va tenter de s'embarquer avec les marins hollandais pour essayer d'évangéliser les indigènes, notamment à partir de la Compagnie hollandaise des Indes, qui a été créée en 1602, et grâce à laquelle un certain nombre de comptoirs hollandais établis par exemple en Ceylan, à Ceylan et en Indonésie vont pouvoir être évangélisés. Malheureusement, déjà les catholiques sont venus auparavant, donc il va y avoir une rivalité préjudiciable à l'annonce de l'évangile qui va s'opérer dans ces régions-là. Maintenant, beaucoup de conversions auxquelles on va assister dans cette période-là ont des raisons politiques, n'est-ce pas ? Si, par exemple, Hugo Grotius peut enregistrer 1 000 000 de conversions à Java et 40 000, n'est-ce pas, assez lent, il y en a beaucoup qui sont pour des raisons d'intérêt, souvent. La sincérité des convertis laisse souvent à désirer. Et en 1688, Grotius va traduire le Nouveau Testament en malais. Et ça, ce sera un travail un peu plus sérieux, n'est-ce pas, qui va permettre de d'évangéliser un peu plus. En 1624, les Hollandais s'emparent de Formose, de l'île de Formose, qui était aux mains des Espagnols jusqu'alors. Ils en chassent les Espagnols et s'établissent à leur place. Mais hélas, en 1661, les Hollandais en sont chassés par les pirates. Quant aux colonies d'Amérique du Nord, les premiers colons qui ont débarqué avec le Mayflower et autres qui ont suivi dans les temps proches, n'est-ce pas, avaient un souci réel pour l'évangélisation des Indiens. Et c'est ainsi que, en 1662, un certain John Eliot est le premier missionnaire qui évangélise les Indiens du Massachusetts. Et en 1671, il enregistre les premiers baptêmes. Mais on se rend très vite compte que les Indiens convertis ne peuvent pas continuer à habiter dans les villes indiennes où ils sont persécutés par leurs frères, en sorte que sont créées un certain nombre de villes, 14 villes, où les Indiens convertis peuvent venir habiter. C'est à partir de 1671 que sont créées ces villes indiennes. Et puis en même temps, John Eliot forme des prédicateurs indiens pour évangéliser les autres Indiens. Il est rejoint par un certain David Brenn, qui est un adepte du piétisme allemand, qui vient du puritanisme et qui va le seconder. Et selon cet homme, comme selon les piétistes, le retour de Jésus est imminent, et il faut s'attendre avant son retour à une grande effusion du Saint-Esprit, tant sur les Juifs que sur les non-Juifs, qui sera le départ d'une évangélisation mondiale. Voyez-vous, celui-là avait une vision assez juste des choses, c'est à peu près en effet ainsi que les choses se passeront. Au Danemark aussi, on a une certaine vision missionnaire, notamment en ce qui concerne les Antilles. Les Antilles, où le Danemark tente d'implanter quelques colonies, et c'est ainsi que les premiers missionnaires européens non catholiques débarquent dans les Antilles. Maintenant, pour répandre la parole de Dieu, il faut aussi créer des écoles. Il faut traduire la Bible. Alors, on se met à entreprendre ces différentes tâches. Il faut aussi comprendre la mentalité du peuple qu'on a à évangéliser. Il faut rendre cette justice aux rares missionnaires protestants du XVIIe siècle, c'est qu'ils ont eu beaucoup plus ce souci de se mettre à la portée des populations qu'ils allaient évangéliser que ce ne sera le cas des catholiques. D'autre part, le but des missionnaires protestants sera d'obtenir des conversions individuelles, tandis que celle des catholiques sera d'obtenir des conversions de masse, c'est-à-dire de tribus entières, n'est-ce pas, quand on arrive à convertir le chef, c'est toute la tribu. On a vu par exemple ce qui s'est passé au Mozambique, n'est-ce pas, où toute la population est déclarée convertie comme ça, sans que rien ne se soit véritablement produit. Du côté protestant, bien sûr, on a une autre vision, et le travail sera plus profond et plus sérieux. En sorte que dès qu'il est possible, une église indigène est créée. Il y a aussi une tentative d'évangéliser la cour du Grand Mogol. Ça, on aura l'occasion d'y revenir, ce qui est aussi lié avec le commerce qui se fait dans cette région de l'Inde, et puis finalement commerce et travail missionnaire à cette période-là vont de pair. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire pour ce qui concerne cette période du XVIIe siècle. Nous en avons presque fini. Il nous restera la prochaine fois un autre chapitre à voir qui nous fera faire la transition entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ce sera le problème des galères en France en particulier. Voilà. Si vous avez des questions à poser là-dessus rapidement.